Bonsoir Julien. Eh bien voilà, un petit peu comme par le passé, on va terminer cette émission avec vous, cette première émission de rentrée. Mais vous, c'est plus vous. Vous êtes un nouveau vous. Vous ne travaillez
Alors,
plus
bonsoir
chez
Bernard,
Origins.
bonsoir à tous. Back to school. Back to school, effectivement, c'est la rentrée. Et dans l'intervalle, toujours un grand plaisir pour travailler et informer vos auditeurs sur la gestion de patrimoine. Mais effectivement, désormais, ce sera moi toujours, qui aime beaucoup parler de sa matière, mais non plus depuis Willins, depuis la compagnie d'assurance vie que l'on connaît, mais depuis la BIL, qui est la Banque internationale à Luxembourg, hein, une très vieille banque luxembourgeoise, une banque de notoriété à Luxembourg. Alors peut-être que vos auditeurs, bien sûr, qui sont en dehors du Luxembourg, ne la connaissent pas, mais c'est impossible pour un luxembourgeois ou un Français, un Belge ou un Allemand de la grande région frontalière de ne pas connaître la BIL. Toujours en ingénierie patrimoniale, ça vous avez cru comprendre depuis quelques années que c'est ma tasse de thé, ce qui nous permettra de balayer un scope de sujets beaucoup plus large, même si, bien évidemment, le contrat d'assurance vie restera un scope important.
Alors, avant de passer au reste, deux mots sur la BIL. La BIL, c'est une banque de l'État, une banque d'affaires, une
Alors, on a
banque
une banque.
privée. Quels sont un peu les métiers de la BIL?
C'est une banque universelle, c'est une des seules banques universelles au Luxembourg. Donc avec son siège social qui est exclusivement à Luxembourg. Et on a une partie banque de détail, hein, ce n'est pas l'essentiel de notre activité. L'essentiel de notre activité étant bien évidemment le private banking avec BILS Wealth Management et l'aspect corporate, tout ce qui est banque d'entreprise, banque d'affaires. Donc c'est une banque, je vous le disais, qui existe depuis 1856 à Luxembourg. Et qui emploie plus de 2000 employés à travers le pays et qui est fortement intégré dans le développement de l'activité économique et financière de la place.
D'accord. Et la recherche de clientèle de la banque, elle se situe où? Plutôt que des clients très haut de gamme, plutôt des clients moyen de gamme,
Ah,
en termes de.
on est sur des clients haut de gamme, on est sur des clients banque privée. Alors on va dire que le ticket moyen pour entrer en banque privée à Luxembourg, à la BIL, je ne sais pas s'il est élevé ou pas élevé par rapport à d'autres établissements, mais on va dire qu'il est à 2 millions d'euros. Et effectivement, nos marchés de prédilection seront désormais la France, la Belgique et le Luxembourg. Ça ne veut pas dire qu'on n'accompagnera pas, quand je dis France, Belgique, Luxembourg, ce n'est pas simplement des Français en France ou des Belges en Belgique, ça peut être également des Suédois en France ou, dans notre cas, des Français installés au Portugal.
D'accord. Alors, on a décidé un petit peu de faire différemment cette année, de se concentrer sur deux sujets. Donc, un sujet qui est un vrai sujet d'actualité. Alors, ça, c'est un petit peu le sujet de votre ancien métier. Il y a une compagnie d'assurance à Luxembourg qui est maintenant sous protection de la justice, qui va probablement faire faillite, même s'il pourrait encore y avoir un plan de relance ou quelque chose comme ça. Et on va voir en vrai, en nature, on va palper, on va toucher, voir comment ce triangle d'or, ce
Triangle de
bouclier,
sécurité, ouais.
comment est-ce que tout ça fonctionne pour de vrai? On va compter puisque la faillite a été déclarée il y a quelques semaines, je crois.
Voilà, qui a dit qu'il se passait jamais rien au Luxembourg, encore plus durant les mois d'été, puisqu'effectivement, vous avez raison, mi-juillet, le 19 juillet plus précisément, on a eu une information comme quoi la compagnie d'assurance FW Life Luxembourg, hein, c'est tout à fait public, qui appartient à un groupe allemand, était mis sous surveillance du commissariat aux assurances. Le commissariat aux assurances, pour rappel, c'est l'organisme de tutelle de l'activité assurantielle à Luxembourg. Alors c'est une compagnie qui n'est pas représentative peut-être des autres compagnies luxembourgeoises, hein, pour rassurer vos auditeurs. Elle avait déjà fait l'objet d'un certain nombre d'avertissements des autorités prudentielles luxembourgeoises depuis quelques années. Il n'empêche aujourd'hui, pour 30 000 clients français, ce n'est pas rien. La compagnie ne répond plus, si je puis dire. Les avoirs sont bloqués et, comme vous l'avez dit en introduction, la compagnie d'assurance, elle a 3 mois pour présenter un plan de relance ou éventuellement une reprise de ses activités par d'autres. Donc, on va véritablement, une fois de plus, démontrer que le triangle de sécurité, en tout cas, je l'espère, mais c'est très probable, ce n'est pas une légende, c'est-à-dire que les épargnants de cette compagnie d'assurance qui a fait faillite devraient normalement pouvoir récupérer leur argent par rapport à ce qui se passerait en France.
C'est ça. Ben ça, on va le voir au fur et à mesure. On va regarder ça, suivre un petit peu la presse luxembourgeoise pour voir ce qu'elle dit là-dessus. On va aussi un peu s'intéresser au timing parce que c'est sûr que l'essentiel, c'est de récupérer son argent. Après, le récupérer en 3 mois ou en 5 ans, c'est pas la même chose. Et on va voir un petit peu tout ça comment fonctionne et ça donnera probablement envie à certains. Ou alors, ça montrera qu'il y a peut-être des choses à regarder et à voir. On a aussi pensé faire tout au long de cette nouvelle saison, donc un petit peu un point et un focus sur un sujet. Alors là, un sujet qui intéresse, j'ai envie de dire vraiment tout le monde, qui intéresse les expatriés, donc par définition les Français qui vivent à Lisbonne, mais qui intéresse aussi beaucoup de Français. Qui ont envie d'avoir une expérience à l'étranger, donc soit une expérience entrepreneuriale ou une expérience professionnelle, ou alors une expérience en tant que retraité. Ouais, une expérience en tant que retraité. Alors il y a du fiscal, vous me tendez un petit peu une perche. Il y a du fiscal subi, du fiscal choisi et du fiscal où tout simplement on n'a pas le choix et on le vit. On peut partir dans un endroit pour les impôts. On peut aussi se retrouver dans un endroit avec un système d'impôts duquel il faut se protéger. Hein. L'expatriation, c'est pas que dans les paradis fiscaux. Hein. Les entreprises françaises envoient leur cadre dans des endroits où il y a beaucoup d'impôts et où les impôts peuvent être aussi un petit peu différents de par rapport à ce qu'on a. Il faut faire attention. Et on va un petit peu balayer ces pays, bien sûr, toujours avec un œil de professionnel, donc toujours avec l'œil fiscal, pour savoir où il y a une bonne affaire à faire et où on peut envier les gens qui y vivent.
Bah, c'est vrai que la délocalisation, vous l'avez dit, ça concerne tout le monde, hein, que ce soit vos auditeurs qui sont installés au Portugal, hein, que ce soit pour des raisons purement fiscales à l'époque ou tout simplement professionnelles. Et puis c'est vrai que depuis une dizaine, une vingtaine d'années désormais, c'est un des conséquences de l'Union européenne, hein, de l'ouverture des frontières. On peut s'installer librement d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que plus vous avez un patrimoine important, on estime par exemple qu'un client qui a 15 millions de patrimoine, en moyenne, changera 2 à 3 fois de juridiction fiscale au cours de juridiction et donc de fiscalité au cours de sa vie. Pas simplement pour une question de fiscalité pure, mais comme vous l'avez dit, parce qu'il va être envoyé par son entreprise pour exercer une activité dans certains pays et il se mariera là-bas avec une personne qui provient d'un autre pays et ils iront passer ou ils investiront leur résidence secondaire là-bas, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet et c'est été d'autant plus un vrai sujet les dernières années qu'on l'avait vu lors d'une de nos précédentes saisons, quasiment tous les pays de l'Union européenne, même la France, c'est dire, ont mis en place des régimes d'impatriation, c'est-à-dire en vue d'attirer les clients, en tout cas des personnes avec enfants qui puissent être en mesure de consommer, d'investir, d'acheter une maison là-bas. Donc le dumping fiscal auprès des clients en personnes physiques n'est absolument pas réservé historiquement ou comme on l'entend souvent à la Suisse, à Monaco ou à Luxembourg. D'ailleurs, Luxembourg au niveau personne physique n'est pas forcément le plus avantageux. Tous les pays de l'Union européenne, le Portugal, l'Italie, la Belgique, sur différents points, ont mis en place des APA pour attirer justement cette clientèle en vue qu'elle investisse, qu'elle consomme et qu'elle se localise avec ses enfants dans ces pays.
Ok, allez, quelques pays, vous avez déjà quelques idées des pays qu'on étudiera dans les semaines à venir, dans les mois à venir ?
Pourquoi pas, bien évidemment, l'Italie. Je pense que l'Italie, ça, c'est un pays en délocalisation qui est à la mode depuis quelques années maintenant. C'est un point d'actualité aussi, puisque nos auditeurs se rappellent peut-être que lors d'une précédente saison, on avait évoqué l'Italie avec ce forfait à 100 000 euros, hein, le forfait à la Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire vous payez 100 000 euros sur vos revenus qui proviennent de l'étranger, mais vous ne payez rien d'autre en Italie. Donc, Cristiano Ronaldo avait fait, par exemple, à l'époque, des dizaines de millions d'économies d'impôts lors de son passage à la Juventus, parce que, bien évidemment, par rapport à ses sponsorings, ses droits à l'image, il payait une flat tax de 100, pour... de 100 000 euros en Italie, ce qui représentait, bien évidemment, rien pour lui, et c'était terminé. Sauf que c'est une des actualités aussi fiscales de l'été. Le gouvernement Meloni a multiplié par deux cet abattement de 100 000 euros.
On est à Alors, 200... je vous coupe. Là. C'est toujours un peu bizarre ces trucs parce que en fin de compte, ils font ça en prétextant que c'est une forme de justice. Mais si on reprend votre exemple, ben, Ronaldo, il s'en fiche toujours de 200 000 euros par rapport aux dizaines de millions qu'il aurait pu être amené à payer s'il était resté au Portugal. Voilà, en revanche, j'ai envie de dire le plus pauvre des riches. Qui pour lui, 100 000 euros, c'était une bonne affaire, mais pas si bonne affaire que ça, mais quand même une petite bonne affaire, bah lui, 200 000, c'est fini. C'est plus Exactement. Une bonne affaire du tout et vaut mieux qu'il revienne à la case départ.
Exactement, mais en réalité, ce plus pauvre des riches, comme vous le dites justement, il y en avait assez peu quand même, et ça représentait quelques centaines peut-être maximum de personnes qui s'étaient délocalisées en Italie en 2017. Alors c'est vrai que derrière, il y a peut-être un prisme de justice sociale, why not? Mais en réalité, je pense que l'Italie va plutôt continuer pour différents, au-delà des avantages de ce forfait de 200 000 euros, pour un certain nombre d'avantages, va ensuite attirer de plus en plus, je pense, de la clientèle ultra high. Donc, je ne pense pas que ces 200 000 euros de forfait qui sont intervenus un petit peu par surprise courant de l'été va changer véritablement l'Italie en tant que pays de destination, mais par contre, encore plus sur une clientèle ultra high, c'est clair.
Voilà. L'Angleterre aussi, ça a un petit peu changé?
L'Angleterre, effectivement, ça va changer. On va en savoir plus dans quelques semaines. C'est vrai que c'est toujours intéressant, la fiscalité, parce que le droit fiscal, le droit, c'est toujours de la politique revendiquée. C'est ce qu'on vous apprend en première heure de droit à l'université. Hein. Moi, j'étais à l'université de Strasbourg, Bernard, donc vous n'allez pas me dire que c'est pas une très bonne université, puisque vous êtes là-bas. Mais c'est du droit revendiqué. La politique, c'est du droit revendiqué et le droit fiscal encore plus. Donc, c'est intéressant parce que le droit fiscal, vous avez un mouvement de balancier. Et effectivement, le UK fait partie maintenant aussi, un petit peu à l'image de l'Italie, même s'il faut le nuancer, de ce retour de balancier avec, on va le voir en Italie, vraisemblablement, c'est sûr, la suppression du régime R&D qui attirait bon nombre de clients de ressortissants étrangers à Londres. On a tous ça en tête et ça, effectivement, ce serait un mouvement qui changerait. On a le Portugal aussi qui a changé avec la suppression du régime RNH. Puis vous avez des nouvelles juridictions qui émergent aussi. Vous avez Andorre, vous avez Malte. On reste quand même dans le scope de l'Europe. Et puis aussi, il faut pas oublier que vous avez aussi des pays qui sans régime fiscaux favorable sont tout à fait par le droit commun. Alors, c'est vrai que ça nous étonne nous un peu français, mais ils sont par le droit commun. Ils ont un régime fiscal sans incitation particulière qui est très avantageux. Alors c'est des pays peut-être un petit peu plus exotiques. Je travaillais la semaine dernière sur la Tchéquie, par exemple. Effectivement, en Tchéquie, vous avez pas d'impôt sur les plus-values, vous avez une tranche marginale d'imposition au niveau de l'impôt sur le revenu à 15%, ce qui nous fait rêver, nous Français, avec nos 45%, et encore, avant notre nouveau Premier ministre, notre nouveau gouvernement. On en aura peut-être un avant la fin de cette saison, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que la fiscalité, vous avez à la fois les régimes incitatifs, ça c'est vrai, en tête le Portugal, l'Italie, le Portugal pour vos auditeurs, mais vous avez également aussi des pays qui, pour différentes raisons peut-être, ont une fiscalité tout à fait neutre, sans avoir de mécanisme attractif. C'est un droit commun fiscal beaucoup plus aisé, beaucoup plus gentil que le nôtre.
Donc, on rappelle, la Tchéquie, c'est un pays membre de l'Union européenne, mais il n'y a pas la monnaie euro qui circule dans le pays.
Exactement. Alors ensuite, on aura aussi l'occasion d'en parler, on l'avait déjà évoqué avec vos auditeurs. Quand vous vous délocalisez en tant que personne physique, il ne faut pas simplement voir le scope de l'impôt. Il faut voir, bien évidemment, vous l'avez évoqué, en tant que financier, le risque de change quand vous n'êtes pas au sein de la monnaie unique. Moi, en tant que juriste, je vous parlerai bien évidemment de votre testament que vous avez peut-être mis en place, de vos donations que vous avez fait à vos enfants, peut-être éventuellement de vos contrats d'assurance vie. On avait déjà eu l'occasion d'en parler qu'il faudra adapter. La délocalisation, on le sait bien, ne se fait pas simplement que d'un point de vue fiscal.
Et après, on a Malte et Chypre, vous en avez parlé, où là, c'est l'euro qui circule.
Exactement, vous êtes au sein de l'Union européenne, ce n'est quand même pas neutre. À la limite, c'est peut-être l'affre qu'on pourrait faire par rapport à la Suisse. La Suisse, vous êtes hors Union européenne, vous avez aussi un risque de change, on n'est pas sur la même monnaie, et en plus, vous vous adressez à des très gros patrimoines. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de juridictions de la part de nos clients qui parfois se délocalisent là-bas, vous avez dit, pour des raisons professionnelles. Je prends l'exemple de la Tchéquie, je ne pense pas que le client se délocalise là-bas pour des questions fiscales. C'est une opportunité professionnelle et familiale qui lui permet de bénéficier d'un régime beaucoup plus attractif pour le moment. Et effectivement, vous avez des pays, des juridictions un petit peu plus nouvelles, qui sont peut-être un petit peu moins regardants en termes de contrôle ou autres, ou qui sont peut-être un petit peu plus stables en termes fiscaux et qui seront peut-être à terme des spots intéressants pour la clientèle patrimoniale. Donc, c'est ce que je vous propose qu'on regarde un petit peu dans cette nouvelle saison ensemble.
Très bien. Bah alors, prochaine émission, il va nous falloir fixer un pays et puis on suivra ça. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, à vous dire à bientôt, à vous souhaiter bonne chance ou bonne fortune, comme on dit ici, pour ce nouveau poste et que ce soit quelque chose de très enrichissant pour vous.
Un grand merci, et puis on se tient au courant. À très bientôt alors.
À très bientôt. Au revoir.